jour, de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert pour ouvrir justement d'autres possibles dans nos sociétés numériques. Face à la dictature des algorithmes, à la loi du marché, c'est-à-dire celle du plus fort, des multinationales ou des États autoritaires, comment reprendre la main ? Comment renverser la vapeur, si j'ose dire, en développant non plus la pire des dystopies, mais le meilleur de notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à partager, à gérer collectivement et solidairement nos ressources ? Ce qu'on appelle les communs, les biens communs. Et si le numérique, justement, était parfaitement adapté aux communs, à l'origine du web, du World Wide Web, à l'œuvre dans les logiciels libres, la science ouverte ou Wikipédia, les biens numériques ont cette particularité intrinsèque que leur consommation par les uns n'enlève rien aux autres, le numérique favorisant au contraire le partage massif des données, des informations et des connaissances. Vive les communs numériques. C'est le titre de l'ouvrage inspirant de nos invités, les chercheurs en informatique Serge Abitboul de l'INRIA et François Bancillon, devenu entrepreneur de biens communs numériques. Nous sommes également en direct avec un autre brillant scientifique, Lê Nguyễn Hoàng, mathématicien et chercheur engagé notamment dans sa chaîne Science for All. Lê qui lance l'alerte dans un ouvrage « La dictature des algorithmes » sous-titré « Une transition numérique démocratique est possible ». Et ça, c'est le meilleur que l'on puisse se souhaiter autour de la question « Pourquoi des communs numériques ?» et surtout « Comment ?» Bienvenue.
Aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est quand même une privatisation, une verticalisation de l'ensemble de ces communs, qui ne sont plus tellement d'ailleurs des communs, puisqu'ils l'ont été historiquement, certes, avec des fonds publics, certes, mais en vérité, aujourd'hui, ceux qui pensent et qui produisent la technique et la technologie sont des acteurs privés, et américains ou chinois. Et comment penser cette histoire de commun quand aujourd'hui, vous avez des entités qui sont supranationales, qui sont très imbriquées avec les États, pour la plupart, sur à peu près tous les sujets régaliens. Donc comment est-ce que remettre du commun là où il y a une privatisation avec même peut-être une forme de projet politique qui n'est pas que financier et monétaire, qui est aussi idéologique, qui est aussi la poursuite de ce contrôle et de cette puissance un peu hors limite.
C'est à partir de ce constat et de ces interrogations soulevées par la chercheuse Asma Mala, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech et de l'IA, que nous ouvrons donc aujourd'hui notre réflexion autour des communs numériques. Vive les communs numériques, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Odile Jacob. Bonjour Serge Abitboul.
Bonjour.
Bonjour François Bancillon.
Bonjour.
Alors expliquez-nous, l'un ou l'autre, je ne sais pas, Serge ou François, ce que sont ces communs numériques et d'abord les communs peut-être. Qu'est-ce que sont les biens communs, François Bancillon ?
Donc les communs, c'est l'idée qu'on peut produire, diffuser et partager des ressources par une méthode et une stratégie différentes de l'économie privative ou de l'économie étatique. Donc c'est l'idée d'un triptyque dans lequel il y a une ressource qui est produite, qui définit le commun. Il y a une communauté qui la produit, qui la consomme et qui l'utilise. Et il y a une gouvernance qui sont un ensemble de règles permettant à cette communauté de fonctionner, de produire et de distribuer.
Bon, donc ce triptyque-là, alors comment le chercheur en informatique que vous êtes, Serge Abitboul, je rappelle même que vous êtes membre de l'Académie des sciences, fondateur aussi du blog binaire du journal Le Monde, comment avez-vous pris conscience de la puissance des communs dans le numérique ?
Alors d'abord, je pense comme beaucoup de gens, j'ai remarqué ça avec les logiciels open source, les logiciels libres, qui sont devenus incontournables, on ne s'en rend pas forcément compte, mais Internet fonctionne avec ça. La plupart des logiciels en intelligence artificielle sont des logiciels open source. Mmh. Donc j'ai déjà remarqué ça en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose. Et puis après, il y a eu l'open data qui est arrivé. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait l'open science qui est arrivé. Et puis, l'open education. Donc, tous ces trucs, tous ces ouverts qui ouvraient de nouvelles dimensions pour le partage, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et c'est Valérie Peugeot, une chercheuse...
spécialisée dans les biens communs.
Entre autres, qui m'a un peu introduit sur cette notion de commun que je ne connaissais pas, qui englobe tout ça et qui va au-delà, et qu'on tient à Ilnor Ostrom, qui a eu un prix Nobel avec cette notion-là.
Alors, je n'ai pas encore présenté notre troisième invité. Bonjour, Léon Nguyen Hong.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous également pour partager, alors justement, autour de cette notion de commun sur laquelle on va revenir, le fait qu'une autre transition numérique démocratique est possible. C'est le sous-titre de votre ouvrage qui sonne plutôt comme un cri d'alerte, même un cri d'alarme. La dictature des algorithmes, coécrit avec le journaliste vidéaste engagé Jean-Loup Fourquet aux éditions Taillandier, et dans lequel vous faites un constat assez alarmant. Nos sociétés sont sous le contrôle d'algorithmes, d'IA de recommandations particulièrement dangereuses et contrôlées justement uniquement par quelques-uns, que ce soit des multinationales, les GAFAM ou des États autoritaires, ce qui fragilise nos démocraties et nos droits humains. Alors comment revenir au commun ?
Ouais, je pense que c'est une grande question et c'est une question malheureusement qui, je pense, manque d'attention aujourd'hui. On a tendance à prendre ces applications comme argent comptant et les intégrer dans notre vie quotidienne sans s'en méfier. Alors qu'il faut bien voir que derrière, il y a des puissances soit privées, soit étatiques qui ont leurs propres intérêts et qui parfois peuvent mettre en danger des sociétés entières. Donc ça, on l'a vu malheureusement dans des cas très tragiques comme en Birmanie où il y a eu un génocide reconnu par l'Organisation des Nations Unies et où le rôle complice de Facebook a été pointé du doigt, notamment par Amnesty International. Mais on le voit aussi ailleurs dans le monde avec un déclin des démocraties et une montée du populisme. La liste des pays, malheureusement, est très longue qui en sont victimes. Et on peut se préoccuper également du cas de la France. Et plutôt que d'essayer de se laisser envahir par ces outils, on pourrait reprendre le contrôle sur ces outils. Et je pense que l'idée de commun correspond exactement à même si on ne l'utilise pas nous, on parle plus de technologies démocratiques, mais c'est vraiment l'idée, en particulier la gouvernance, c'est vraiment quelque chose d'absolument critique. Et on pense que la gouvernance doit être beaucoup plus démocratique.
C'est ça, il faut donc d'abord en prendre conscience et aussi se rendre compte, c'est ce que vous disiez un peu Serge, c'est à quel point, moi c'est ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, Vive les communs numériques, aux éditions Odile Jacob, c'est à quel point le numérique est adapté au commun, enfin dans sa fonction même, et contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui.
C'est assez impressionnant. Les communs, déjà, c'est cette notion de non-exclusivité. Vous avez un bien que vous partagez, c'est communautaire. Donc ça, c'est même les communs matériels, c'était pareil. La dimension que vous avez mentionnée dans votre introduction de la non-rivalité, le fait que vous pouvez utiliser un commun numérique, mais que plein d'autres gens peuvent l'utiliser. Vous avez utilisé un logiciel libre, les gens peuvent l'utiliser, vous n'avez pas entamer la ressource d'une certaine façon.
C'est ça.
Ça, c'est le deuxième point. Mais il y a quelque chose qu'on a découvert, enfin que moi j'ai découvert avec François dans le livre, c'est qu'il y a une autre dimension. C'est le numérique permet de travailler ensemble, de collaborer. C'est quelque chose qui est fondamental. Wikipédia, comme une encyclopédie qui est mise au point par des centaines de milliers de personnes, ce n'est possible que grâce à l'application numérique que Wikipédia utilise. On n'aurait pas pu faire ça au 19e siècle, même si Diderot et d'Alembert avaient eu cette idée-là, c'était pas possible. Il y a cette notion d'être capable de collectivement avoir une gouvernance collective, avoir un travail collectif avec des centaines de milliers de personnes. Et puis alors après, donc sur la non-rivalité, le fait que la consommation de la ressource peut être des milliards de gens.
C'est ça, et ça n'enlève rien aux autres.
C'est
totalement solidaire. Moi, j'ai l'impression, et en vous lisant tous les deux au fond, j'ai l'impression que il faudrait prendre conscience, des deux côtés d'une médaille, des deux faces d'une médaille. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est à un moment où on voit bien la puissance du numérique dans nos vies et que ça peut vraiment... Alors pour le moment, on va vers le pire, entre les gouvernances, la privatisation, les monopoles, etc. Mais aussi vers le meilleur. Il y a vraiment les deux qui sont, François Bonsillon, là, devant nous, quoi.
Tout à fait. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour produire de façon différente des ressources. Wikipédia, c'est une merveille totale. Et des ressources qui sont extrêmement complexe à produire. Donc, si on parle d'un logiciel, construire un logiciel comme Linux qui fait tourner Internet, c'est incroyablement difficile. Et ce mode de production collective arrive à résoudre ce problème technique incroyablement difficile. Et un papier célèbre a été écrit qui s'appelle « La cathédrale ou le bazar ». D'accord ? La cathédrale, c'est « je produis de façon hiérarchique et ordonnée un produit complexe et je dirige et j'applique ». Et le bazar, c'est « je fais en montant au contraire ». Je permets aux gens de collaborer entre eux de façon subtile et j'arrive à quelque chose qui marche. Et l'open source et le logiciel libre ont changé fondamentalement l'industrie du logiciel et nous ont permis de produire beaucoup plus rapidement des logiciels de meilleure qualité et de façon plus intelligente.
C'est vraiment l'intelligence collective, là, pour le coup, dans le meilleur. Hein, quand on ne parle pas du pire, on parle du meilleur. C'est ça,
oui,
hein.
Tout à fait. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la qualité des logiciels open source, en particulier Linux. On a un État en Allemagne qui a décidé d'adopter Linux et de le remplacer par Microsoft.
Remplacer Microsoft par Linux.
Et l'une des motivations pour ça, c'est non seulement la sécurité, mais également le coût. Il se trouve que ça peut être aussi beaucoup moins cher. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on a été aussi envahi par des produits qui appartiennent à des entreprises, c'est aussi plus le côté commercial de ces entreprises.
Mais bien sûr, la loi du marché, c'est ça.
Non seulement la loi du marché, mais également la loi du marché avec tout ce qui est marketing et pas forcément une supériorité technologique.
Ah oui, d'accord, c'est de la publicité au fond, hein. C'est un peu de la poudre aux yeux.
A pu aider en tout cas.
Et rappelons-le tout de même qu'à l'origine, enfin je veux dire, le web, il a été quand même conçu. Alors il y a eu une part évidemment par les militaires américains, mais par les physiciens du CERN, donc dans un but totalement collaboratif autour de la question pourquoi des communs numériques et donc comment reprendre collectivement, c'est bien ça, le contrôle de nos vies, de nos esprits. Nouvelle question pour vous, soulevée par mon confrère du mensuel pour la science, François Lassagne. On l'écoute.
Les communs numériques sont une idée qui existe depuis à peu près le moment où le numérique a été appelé comme tel. Et même sans doute le numérique est-il né avec l'ambition d'être d'abord un commun plutôt que quelque chose qui appartiendrait à de très grandes sociétés privées. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui vous fait penser éventuellement qu'aujourd'hui le numérique puisse s'étendre dans un monde de commun plutôt que dans un monde de privé comme il le fait aujourd'hui? Ça dépend de quoi, en fait, pour que les communs s'imposent? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne?
Immense question, hein. Mais qui, François Bansillon ou Serge ou Lé, qui veut se lancer?
Oh, je peux me lancer.
Serge Habiboul.
Alors, ça va être difficile, parce que on assiste exactement à ce qui s'est passé pour les communs physiques, c'est ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire les propriétés privées qui essaient de s'agrandir, et pour s'agrandir, eh ben, empiètent sur les communs, pillent les communs d'une certaine façon. On assiste exactement à ça quand on voit des privatisations d'une partie du web, par exemple. Donc ça, c'est la situation, et on a des entreprises en face de nous qui sont des entreprises de taille considérable, etc. On pourrait s'arrêter là en disant « c'est foutu ». Nous, on pense que non, c'est pas foutu, et je pense qu'il est pareil et du même avis. Alors, d'abord, il y a des raisons objectives pour le faire, c'est que ça fonctionne bien. On sait maintenant que ça fonctionne et que le fait de mettre quelque chose en commun, c'est pas quelque chose qui va nuire aux performances, mais au contraire. Donc déjà, ça fonctionne bien dans le cadre du numérique. C'est des économies d'échelle considérables. Financière aussi, hein. Donc les États ont un intérêt objectif à le faire et donc de plus en plus des États se dirigent là-dedans. Alors évidemment en Europe on voit ça avec la Commission européenne, mais la Russie, la Chine, il y a beaucoup d'États qui vont dans cette direction-là.
C'est ça, oui, qui se servent de logiciels libres, ouverts, on mettra des bémols, mais...
Exactement. Et c'est l'intérêt aussi des particuliers, puisqu'on peut avoir des logiciels moins chers et avoir des avantages aussi de qualité. Donc maintenant, la question, c'est comment on arrive dans ce combat? Et alors, la question, c'est pas facile. Et il y a plein de moyens d'y arriver. Premièrement, il faut, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue de loi, faire des lois qui protègent les communs. Les lois ont toujours tendance depuis des années à protéger, depuis des siècles, à protéger de plus en plus la propriété privée, et c'était utile. Mais maintenant, on a besoin de lois qui protègent...
De lois qui protègent les communs.
Qui protègent les communs. Ensuite, on a besoin de communautés, d'utilisateurs et de développeurs qui soient énergique et efficace. Et on a besoin aussi d'entreprises qui aident, parce que d'une certaine façon, si une entreprise veut se battre contre les grands géants du numérique, c'est pas possible. avec les communs, ils peuvent se mettre ensemble et collaborer. Donc il y a plein de moyens d'y arriver, ça va pas être simple, mais il y a une dernière raison, je finirai là-dessus, qui est dans une époque où on parle de sobriété, pour des raisons écologiques, où la sobriété devient un mot incontournable, les communs peuvent permettre d'aller vers plus de sobriété en mettant d'une certaine façon, de façon plus collective, le développement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête.
Donc c'est une possibilité, c'est une vraie possibilité. Vous êtes d'accord avec ça? Même si, donc finalement, qu'on n'aille pas vers la dystopie, c'est pas seulement une utopie. Ça pourrait vraiment être une réalité. Il faut juste qu'on en soit conscient et, comme vous le dites aussi, qu'on ne regarde pas ailleurs, hein, qu'on se trompe pas de problèmes ni de questions.
Oui, tout à fait. Je pense qu'en tout cas, sur beaucoup de problèmes, le logiciel libre est supérieur. Donc dans ces cas-là, il y a vraiment un intérêt économique même pour les pays et pour les entreprises à adopter le logiciel libre. Après, pour d'autres applications, je pense en particulier aux réseaux sociaux, là, ça devient assez difficile parce que les réseaux sociaux, il y a un effet de marché, un effet de réseau qui fait que, c'est une fois qu'ils sont là et qu'ils collectent énormément de données, qu'ils ont tous les utilisateurs, là, vraiment, on se bat contre beaucoup plus fort que
c'est beaucoup plus compliqué côté réseaux sociaux que côté logiciel.
Et l'une des raisons notamment pour laquelle c'est particulièrement difficile du côté réseaux sociaux, c'est que rendre ces plateformes très utilisées nécessite des outils qui sont souvent questionnables d'un point de vue éthique. En fait, ces outils sont vraiment conçus pour maximiser le temps d'attention que les gens qu'on va tous passer sur ces réseaux sociaux. Donc, ils sont conçus pour être aussi accrocheurs que possible, à garder notre attention. Et ça soulève plein de problèmes, que ce soit d'un point de vue individuel avec des problèmes de santé mentale, mais également à l'échelle collective avec la qualité de l'information, avec les problèmes d'appel à la haine, de cyberharcèlement et ainsi de suite, qui rendent la plateforme très attractive pour beaucoup d'utilisateurs. Et donc, si on veut une alternative, il faut se rendre compte que cette alternative sera probablement moins plébiscitée par des utilisateurs qui n'ont pas, en tout cas, été sensibilisés à tous ces risques. Et à ce moment-là, je pense que, comme Serge l'a dit, il va falloir des solutions juridiques également, coordonnées. Il va falloir défendre les communs, il va falloir soutenir les alternatives plus éthiques. Il va falloir aussi monter le standard de sécurité et d'éthique de tous ces systèmes. Et c'est aussi des choses qu'on défend beaucoup dans le livre.
Oui, c'est ça. Ça va être une forme de résistance, en fait. C'est ce que vous dites, pour ne plus nous laisser accaparer notre temps de cerveau disponible. Hein. C'est vraiment, vraiment cette question-là. Là, il va s'agir vraiment de résistance. J'ai envie de vous citer Grand Corps Malade, parce que une de ses chansons dit « Il faut pas oublier que on va plus vite. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. » Nous, on a choisi, en tout cas, de vous glisser entre les deux oreilles une chanson inspirante, elle aussi. Elle est signée Bourvil, c'est La Tendresse, mais elle a été reprise en plein confinement par une ribambelle d'artistes amateurs sur les réseaux sociaux qui en ont fait un clip viral qui fait toujours du bien, par où ça passe. La Tendresse, symphonie confinée à voix multiple sur RFI.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui n'approuve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long.
Thank you.
Sur RFI, autour de la question des communs numériques. C'est un joli exemple musical conçu et partagé en commun, réalisé pendant le confinement. Sauf, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous voulez réagir, peut-être François Bansillon, ce genre d'initiative n'a pas tellement duré au-delà du confinement, finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a compris qu'ensemble, on allait plus loin.
Non, mais il y a eu plein d'autres domaines sur lesquels des initiatives de type commun ont été très efficaces. Et c'est là qu'il faut penser à tout ce qui est l'ouverture des données, je pense, qui est la recherche de la transparence pour tout le monde. Et où, là encore, on montre que en étant plus ouvert, en étant plus transparent, en mettant le plus de données possibles à disposition des gens, d'une part, on libère des nouvelles forces économiques, on permet aux gens de construire des nouveaux services et des nouveaux types de relations. Et donc, là encore, ces approches de type commun permettent à la société de fonctionner plus efficacement et ne sont pas nécessairement en opposition avec avec le fonctionnement capitaliste orienté vers le profit. Le système s'adapte très rapidement autour de ça.
C'est ça, rappelons-le, autour de cette question des communs numériques. Je rappelle que nous sommes en compagnie de François Bansillon, Serge Habitboul, chercheur en numérique à l'INRIA. Vous êtes tous les deux auteurs de « Vive les communs numériques » aux éditions Andy Jacob. Et nous sommes également en direct avec le chercheur Lê Nguyen Hoang, co-auteur de « La dictature des algorithmes » aux éditions Taillandier. Je propose aux trois scientifiques que vous êtes un nouvel éclairage justement autour de cette science ouverte, de ce partage des données que vous défendez ardemment vous aussi. Comment partager pour aller plus loin, donc les résultats, les données, les recherches en cours. Écoutons l'éminent physicien théoricien Yann Mambrini, auteur de La Nouvelle Physique, qui était récemment notre invité.
Le commun numérique, c'est assez intéressant. Alors, c'est un sujet, on appelle science ouverte, souvent le nom qu'on donne. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a quand même une économie sous la science, même si on parle de trous noirs, de fourmis, de cosmos, c'est joli. Il y a quand même un système économique derrière, de revues. Et c'est vrai que nous en physique, depuis très longtemps, on dépose nos publications sur un site qu'on appelle Archive, un site numérique gratuit. Et la plupart des publications sont accessibles au monde entier. Et c'est cette accessibilité quasiment infinie qui rend la science, le développement de la science possible, parce que qu'on soit en Afrique, en Chine, en Indonésie, aux États-Unis, au Mexique, on a accès à l'information maintenant automatiquement, gratuitement. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que je pense que cette gratuité, cette science ouverte, on va dire, est vraiment fondamentale pour un développement de la science au mieux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné, que j'ai jamais très bien compris. Au tout début, quand Wikipédia est apparu, ça m'a paru très étrange. Je me suis dit, Wikipédia, à un moment donné, comme c'était open à l'époque, et donc on pouvait écrire vraiment n'importe quoi, et je me suis dit, ça va être, entre guillemets, j'ai un bordel, un foutoir, les gens vont mettre n'importe quoi, vu qu'on peut mettre n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui me fascine, et je ne comprends toujours pas, c'est qu'au final, à l'équilibre, c'est totalement ouvert, mais c'est juste. Il y a des choses fausses, mais honnêtement, dans tout ce qui est de la physique, mon domaine, il y a très très peu de choses fausses. Ça s'auto-corrige, finalement, et le juste et le bien, paradoxalement, dans ce cadre-là, en tout cas, domine sur le faux et la fake news, contrairement à Twitter ou à ce genre de réseau. Et ça me fascine assez qu'au final, les gens ont une certaine envie de corriger quand ils voient quelque chose de vraiment faux ou vraiment trop faux, le corrigent et vont vers le bien. Donc ça, je trouve Wikipédia très rassurant sur l'humanité en ce moment. On a bien besoin de ça. Wikipédia, c'est vraiment super rassurant.
Serge Habitboul, vous voulez réagir à cet éclairage inspirant du physicien Yann Mombrini?
Alors, d'abord, je partage complètement tout ce qu'il a dit sur les sciences ouvertes. La science, ça fonctionne parce qu'elle est ouverte. Ça avance beaucoup plus vite parce que les autres peuvent utiliser vos résultats. Alors, sur Wikipédia, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne bien pour des raisons de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous êtes éditeur chez Wikipédia, quand vous participez à la création de la collective de cette encyclopédie, vous pouvez faire n'importe quoi, et c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur une page et la changer, mettre ce que vous voulez, mettre une bêtise si vous voulez. Mais il y a d'autres éditeurs qui vont aller et qui vont regarder la page, qui vont vérifier ce que vous dites et qui vont corriger. Et en fait, la religion chez Wikipédia, ce que vous apprenez assez vite, c'est pas tellement l'autorité. Leur dire, non, moi,
c'est pas l'autorité d'en haut, quoi. C'est pas
ou ça. C'est même pas votre autorité d'expert. Sur Wikipédia, moi, je suis prof en informatique, je sais de quoi je parle, ils s'en foutent. Ce qui est intéressant, c'est la source, la référence. Il y a des références sur tout. C'est-à-dire que quand vous affirmez quelque chose, il faut que vous apportiez une preuve, votre référence, un article, un livre, un journal qui le dit. Et sans arrêt, il y a cette vérification. Et ça prouve bien la supériorité, dans ce cas en particulier, du travail en commun. C'est-à-dire que collectivement, on arrive à modérer, corriger, arrive à plus de qualité sur le réseau social et à faire que, comme l'a dit la personne, ça marche bien. Sur des réseaux sociaux, ça marche beaucoup moins parce que c'est des professionnels qui font la modération. C'est un petit groupe de personnes, c'est un groupe beaucoup plus petit. Même si c'est des milliers de personnes sur Facebook, il y a beaucoup plus de stupidité, d'erreurs, de manipulation d'informations sur Facebook, malgré tous les moyens de Facebook et malgré les milliers de modérateurs, que sur Wikipédia, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de moyens, d'ordre de grandeur en dessous. Mais il y a des gens qui font attention et qui aiment leur travail de vérification.
Je me tourne vers vous, Léa, parce que c'est vraiment là, au fond, une des grandes questions. C'est-à-dire comment, c'est une question de gouvernance, en fait. C'est une question de loi, une question de gouvernance, une question de décision.
Oui, tout à fait. Je pense que vraiment, c'est ce qui est au cœur de... Si on veut des biens communs, enfin, vraiment utiles à la société, qui protègent la société, il va falloir bien les gouverner, comme l'a dit Serge. Moi, j'ajouterais quand même une nuance à ce qu'a dit Serge, c'est que sur certains sujets comme la physique ou l'informatique, en effet, les sources, ça marche très très bien de savoir ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Après, il y a eu des campagnes d'influence aussi sur Wikipédia, et par exemple sur la page d'un homme politique, par exemple, ça a été révélé particulièrement dans le cas d'Éric Zemmour. La question de quelles informations on priorise, est-ce qu'on dit d'abord qu'il est un candidat à la présidentielle ou d'abord qu'est-ce qu'on met en avant en premier? Là, par contre, ça devient
la
beaucoup plus difficile.
Finalement,
c'est ça, la hiérarchisation d'informations, à quoi est-ce qu'on va prêter attention, qui est un gros sujet de notre livre. Là, ça devient beaucoup plus compliqué d'arbitrer ces différentes choses. Et une des choses que Wikipédia fait très bien, c'est qu'ils ont vraiment un socle aussi de personnes qui sont vraiment très rigoureuses aussi sur ces aspects et qui font très attention aux luttes d'influence. Mais un bémol que je mettrais à Wikipédia, c'est que Wikipédia a un groupe d'éditeurs qui n'a pas été beaucoup renouvelé, ce qui permet au groupe d'être très solide, très, très robuste. Mais ça veut dire qu'ils ont 20 ans de plus qu'il y a 20 ans lorsqu'ils ont commencé.
D'accord, donc il faudrait renouveler un peu tout ça et rajeunir un peu les correcteurs et les rédacteurs de Wikipédia. Oui. Ok, non, vous avez bien raison de le dire. Et je rajoute bien qu'effectivement, dans votre ouvrage à vous, La dictature des algorithmes, coécrit avec Jean-Loup Fourquet, vous parlez précisément de cette question de l'attention, du contrôle de notre attention, de notre cerveau. Hein, que c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter, déjà en s'en rendant compte. Et puis un autre volet, vous m'avez aussi fait me pencher sur cette question évidemment éminemment politique, cette question de la démocratie numérique, est-elle possible ou pas? Et vous m'avez... Il y a un exemple sur cette planète dont on ne parle pas assez, c'est celui de la petite île de Taïwan et de cette démocratie numérique. Je propose d'écouter d'abord, et vous nous expliquerez ensuite comment et pourquoi, celle qui en est l'exemple, la porte-parole la plus éclairée, c'est Audrey Tang. Elle est ministre des Affaires numériques de Taïwan. C'est une ancienne hackeuse pour les droits civique qui défend une pratique transparente, délibérative, en open data de la démocratie dans son pays. Un exemple, Audrey Tang, elle enregistre, elle partage toutes ses interventions, toutes ses interviews avec ses concitoyens par écrit, expliquant aussi dans un entretien, c'est ce qu'on va vous passer à l'instant à l'Institut Simons, comment en 2020 Taïwan a évité le confinement autour du Covid-19 grâce notamment à des innovations technologiques, à la production participative d'idées idées qui sont devenues des lois ensuite, et même à l'usage de l'humour pour combattre la désinformation. On l'écoute.
My work, broadly speaking, is about open government.
Je travaille pour une gouvernance ouverte et partagée, c'est-à-dire que le gouvernement doit faire confiance aux citoyens en produisant des données ouvertes et non pas en leur demandant de faire aveuglément confiance à ce que dit leur gouvernement. Un gouvernement ouvert repose essentiellement sur l'idée que, par exemple, quand les gens s'inquiètent du nombre de masques chirurgicaux disponibles dans les pharmacies, nous veillons à répondre, non seulement en les informant, mais aussi en fournissant des données qu'ils puissent se réapproprier afin de permettre à tous ceux qui veulent former des groupes de discussion en réalité virtuelle ou augmentée de pouvoir créer des applications de navigation partagée intégrant les données les plus précises des lieux où ils se trouvent. Et cela permet d'éviter la panique. La deuxième façon d'y parvenir passe par l'humour. Dans chaque ministère, nous avons désormais des comédiens professionnels qui s'attachent à apporter des clarifications amusantes et qui deviennent virales en 2 heures en moyenne. Parce que si les gens rient de la rectification d'une fausse information, cela devient de fait organiquement viral et plus personne n'a de raison de s'indigner ou de se sentir attaqué. Et on peut vraiment avoir des discussions justes en toute connaissance de cause sur tous les sujets débattus. Fondamentalement, nous ne prétendons pas être des fact-checkers, mais nous fournissons en temps réel toutes les clarifications pour que la communauté des fact-checkers puisse réellement faire leur travail.
Le, je vais vous faire réagir sur ces paroles de Dretang. On n'a pas pu tout passer. Vous m'avez vraiment fait découvrir cette ministre des Affaires numériques de Taïwan qui est impressionnante parce qu'on a l'impression souvent que nos gouvernants n'ont pas confiance ou se laissent, ne peuvent plus diriger. Hein. Ils sont dirigés par l'économie ou par autre chose. Là, c'est un exemple avec Taïwan d'une démocratie numérique qui fonctionne, qui avance au fur et à mesure.
Oui, pour moi, c'est vraiment l'exemple, un élément qui montre que oui, c'est possible, voilà, qu'un numérique démocratique est possible. Et pour vraiment se rendre compte de l'ampleur du succès finalement que ça a été, même si ça reste sous attaque, ça reste compliqué, bien sûr.
Très menacé par la Chine,
notamment. Il faut bien se rendre compte qu'en 2014, Taïwan était loin d'être une démocratie modèle.
Absolument.
En 2014, il y a eu un mouvement, s'appelle le mouvement des tournesols, qui a exigé beaucoup plus de transparence de la part du gouvernement, en utilisant toutes sortes de technologies du numérique pour rendre ouvertement accessibles toutes sortes de données du gouvernement qui sont censées être par la loi accessibles, mais qui peuvent être difficilement accessibles en pratique.
Oui, oui.
Mais là, le numérique était extrêmement puissant avec toutes sortes d'outils open source et libres.
C'est vraiment un outil de la révolution, un outil en tout cas de la demande de démocratisation.
Exactement. C'est vraiment mettre le commun au service de tout le monde et en particulier de la démocratie. Et c'est vraiment un exemple extrêmement inspirant qui a permis de renforcer la démocratie, c'est-à-dire qu'au cours de ces 10 dernières années, alors malheureusement à travers le monde, beaucoup de démocraties sont plus dans le déclin, en tout cas selon les chiffres des chercheurs du domaine, sauf Taïwan qui s'est renforcé et qui est aujourd'hui une démocratie beaucoup plus solide.
Et moi j'ai envie de vous demander, Lé, parce que pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus finalement de ce cas-là? Je ne dis pas qu'on pourrait l'appliquer partout, Audrey Tang l'explique bien, la numérisation est très au point, c'est un petit pays qui fournit des processeurs, qui est vraiment en pointe à ce niveau-là, mais au fond, on n'en parle pas souvent de cet exemple-là, donc c'est possible. Et c'est une jeune démocratie avec des jeunes dirigeants aussi.
Ouais, ouais. Tu vois, je vous remercie beaucoup d'en parler. Moi aussi, je suis très frustré qu'on n'en parle pas beaucoup plus parce que je pense que c'est vraiment un exemple très inspirant. Et c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus porté par peut-être le lobby marketing des grands groupes privés qui ont beaucoup plus intérêt à ce qu'on parle d'eux. Et c'est vrai qu'ils monopolisent pas mal l'espace public. Mais c'est vrai qu'on devrait, je pense, donner beaucoup plus d'attention à des exemples comme celui de Taïwan.
C'est possible, en fait. Et les militants, les résistants que vous êtes tous les deux, François et Serge, des communs numériques, disent aussi c'est possible, ce serait possible.
C'est possible et on peut citer quelques exemples de réussites fabuleuses qui sont OpenStreetMap, qui est une alternative à Google Maps, qui est animée par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de volontaires qui ont montré, notamment pendant les accidents qu'il y a eu à Haïti, qu'après le tremblement de terre, ils étaient plus réactifs que Google Maps pour donner des informations. D'accord ? Et on peut citer aussi Open Food Facts, qui apporte à l'ensemble des Français et bientôt de l'Europe l'information sur les composants qu'il y a dans les biscuits qu'ils achètent dans les supermarchés. D'accord ? Donc, ils ont constitué, avec l'effort de la multitude, la base de données la plus complète sur le composant de ce qu'on mange tous les matins et tous les soirs. Donc ça, c'est des exemples extraordinaires de fonctionnement de multitude avec la gouvernance associée et les retombées positives pour la santé. D'accord ? Open Food Facts, on s'en sert maintenant pour faire le Nutri-Score et essayer que nos enfants soient moins à risque vis-à-vis de l'obésité, etc. etc.
Donc c'est vraiment utile, ça marche. On peut citer aussi, on avait récemment un invité, Moustapha Cissé, à Dakar au Sénégal, qui monte une grosse plateforme participative de santé. Il y a moyen un peu partout de faire autrement. Donc tout n'est pas foutu, pour le dire très très vulgairement. It's not too late, si je vous dis ça. C'est parce qu'on a choisi de vous passer ensemble un autre morceau de musique, un morceau commun. C'est celui du collectif The Chinese Man, extrait de la playlist du mois sur RFI qui s'intitule Too Late. Il est donc pas too late, il est encore temps de s'en inspirer. Chinese Man & Co. sur RFI.
Oh hey, didn't see you there. While I've got your ears, there's something I'd like you to hear.
When it's heavy, heavy heart. On his mind in New York. My dad is dead and he can't go on.
In the doses, the toxins, the antidote. If the son come from God, somebody gotta be Joseph. Blood on my hands, cause Papa handed me roses. Branded me dope, but not enough for Carnegie Hall. Travel the globe, but still struggle to try to be whole. Part of the Odyssey, Homer jotted us how to be home. The hero journey, Greek old. Ego death is cheat code. Free myself through keyholes, he done left the pitfall. Same toilet, different shit show. Do me your stogie, same schizo. Rumi your Allan Poe, grim prose. Julie blossom into primrose. Kinfolk, trees fall far from the apple cider gin toes. Fix the rider to have lick yours. Appetizer's main course, but don't get hung over the painful. Got a stomach or the aches though. Mud come with rain, so jump around my house a pain song.
Extrait du dernier album de Chinese Man, un collectif, le collectif de Chinese Man dans la playlist du mois sur RFI autour de la question des communs numériques en compagnie de nos invités Serge Habitboul, François Bancillon, Nguyen Huang et autour de la question donc des communs numériques. Comment et jusqu'où le numérique au fond peut-il être à la fois le problème parfois, mais aussi la solution, une transition démocratique et écologique. Tiens donc, est-elle possible ? Je vous renvoie sur un tout récent rapport du Shift Projet en mars 2024, intitulé « Quel monde virtuel pour quel monde réel ?». Alors ce rapport s'intéressait à l'empreinte carbone du numérique. Les auteurs estiment que 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues au numérique, soit à peu près autant que pour les véhicules utilitaires. Un chercheur en sociologie du numérique, Hugo Janin-Gros, il est chercheur à l'Université de Technologie de Troyes, a travaillé sur ce rapport. Notre reporter Stéphane Duguet l'a rencontré pour lui demander justement si les communs numériques pouvaient changer un peu la donne. Est-ce que l'approche en commun pourrait s'avérer plus consciente des enjeux écologiques, voire plus éthique ou plus morale ? Réponse de Hugo Janin-Gros.
Plus morale, je ne sais pas. En tout cas, déjà, ne serait-ce que pour savoir si elle va être plus efficace, est-ce que dans le commun numérique, on va avoir une plus grande facilité à avoir des pratiques écologiques. Si on pense à Wikipédia ou logiciels libres de manière générale, on va avoir des pratiques d'éco-conception dans le mouvement des communs qui vont pouvoir permettre de porter, par exemple, sur la conception du logiciel, faire un logiciel qui, du point de vue du code, hein, va être un peu plus frugal. Après, ça va rester des gains qui sont, de ce point de vue, relativement marginaux, puisque le gros de l'impact environnemental, c'est le matériel. C'est la matérialité des dispositifs, et en particulier des terminaux. Les serveurs, le refroidissement des serveurs, les infrastructures, mais également et principalement les terminaux. La production des terminaux, leurs usages, et puis finalement, à la fin de leur vie, leur éventuel recyclage.
De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut considérer que le numérique peut être une solution au changement climatique ?
Finalement, je pense que le message le plus important, il est de bien comprendre que le numérique ne constitue pas en soi une solution ou une planche de salut. Les technologies ne constituent pas à elles seules une planche de salut face au changement climatique, et le numérique, de ce point de vue, correspond au reste des solutions technologiques. On ne peut pas attendre du numérique et des solutions numériques qu'elles viennent se substituer à toutes nos activités maîtrises de carbone, et puis qu'on va pouvoir comme ça rendre vert ou verdir toutes nos activités en les numérisant, puisqu'à chaque fois qu'on numérise, eh bien, on a besoin de déployer des ressources technologiques qui sont ces supports d'information que sont les technologies numériques.
Si je comprends bien, ça veut dire que ça dépend de nos usages. Comment évaluer l'impact positif ou négatif de l'utilisation du numérique ?
Si en utilisant mon ordinateur, qui certes va émettre dans son cycle de vie quelques dizaines de kilogrammes de CO2, eh bien je peux éviter de prendre ma voiture tous les jours, très bien. Maintenant, il y a des effets de substitution qui ne doivent pas être surévalués. Et puis on ne doit, autre message important je pense, il ne faut pas négliger l'impact des effets rebonds. Les effets rebonds, ça part du paradoxe de Jevons, c'est le fait que quand une technologie permet une utilisation plus optimale de ressources, eh bien la consommation de cette ressource augmente, elle ne diminue pas. Pourquoi ? Parce que le fait que cette utilisation efficiente de la ressource soit possible, eh bien on va nous encourager à plus l'utiliser. Ça avait été remarqué avec le carbone, ça peut très bien être appliqué au numérique.
Complexe, hein, cette question de la transition, alors pas seulement démocratique, mais écologique avec le numérique. Serge Habitboulou, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, parce que c'est un sujet qui est très important. Il y a eu beaucoup de travaux aussi à l'ARCEP autour de ça. Hein. Mm-hmm. Faut peut-être faire un pas, je vais faire un pas sur le côté. Les communs en eux-mêmes sont, à mon avis, une réponse très importante au problème de sobriété, au problème écologique, mais les communs en général. Alors après, sur la question de commun numérique, c'est évidemment une question qu'on s'est posée avec François, parce qu'on voulait couvrir tout le sujet. Et là, c'est plus compliqué. La réponse est plus compliquée. Alors bien sûr, on peut imaginer des réponses sur le fait que les communautés qui développent du logiciel pourraient faire de l'éco-conception, des choses comme ça. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement à l'intérieur des communs. De la même façon que dans les communs, il n'y a pas forcément la notion d'éthique, il n'y a pas forcément la notion de morale.
Oui,
les logiciels libres, il n'y a rien qui vous dit qu'un logiciel libre soit éthique. Alors par contre, sur une question qu'a soulevée votre auditeur, la personne qui parlait,
oui,
qui est très intéressante, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue consommation, d'un point de vue sobriété, la plus grosse partie, c'est dans le matériel, c'est dans la fabrication de tous ces objets. Alors là, il y a un aspect sur lequel les communs peuvent intervenir, c'est sur les aspects protocoles, c'est-à-dire forcer les entreprises à faire des objets qui soient beaucoup plus...
Plus sobre
dans le sens aussi où réparable.
Ah,
la réparabilité,
oui,
est quelque chose de fondamental. Et
bien sûr, ça
veut dire des normes qui vont dire que on va mettre en commun les protocoles, par exemple, d'échange entre l'écran de votre téléphone et votre téléphone. Ce qui fait que si l'écran tombe en panne, on ne va pas vous demander de changer votre téléphone et ça ne va pas vous coûter une blinde, mais vous pourrez remplacer que cet objet. Et là, je pense que c'est un petit côté de la lorgnette,
oui,
mais c'est un côté important.
Qui vous réagit là-dessus ? Les, oui.
J'ai un autre élément de réponse, c'est que je pense que quand on pense à la consommation, enfin à l'impact du numérique sur l'environnement, on pense beaucoup aux émissions directes en termes de fabrication de matériel, mm-hmm, ou consommation électrique. Ce qu'on a tendance, je pense, à beaucoup trop perdre de vue, notamment dans le mouvement écologiste, c'est le fait que le modèle d'affaires aujourd'hui des géants du numérique, ça reste la publicité ciblée en très grande partie, y compris une entreprise comme Google, mm-hmm, et encore plus les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et la publicité ciblée, c'est quoi ? C'est pousser à la surconsommation. Donc je pense qu'il y a un problème qui est encore plus grave,
ouais,
qui est un peu, je pense, négligé par ces mouvements.
Et là, on ne regarde pas là où il faut, en fait.
On ne regarde pas tout à fait là où il faut. Et après, un autre aspect, c'est aussi le problème de la lutte informationnelle sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, est-ce que la prochaine vidéo qui sera recommandée parlera du climat? Est-ce qu'elle en parlera bien aussi? Mais juste, est-ce qu'elle en parlera déjà? Je pense que c'est des questions qui sont, beaucoup plus importantes pour la lutte écologiste. Et là, en l'occurrence, donc moi, je travaille sur un projet d'algorithme de recommandation gouverné de manière démocratique, en tout cas collaborative.
Oui. L'idée, c'est possible, ça encore.
Oui. Là encore, on essaie de montrer que c'est possible. Notamment de faire ça de façon sécurisée, c'est encore des questions de recherche, vraiment à la pointe de la recherche, qui ne sont pas forcément simples. Mais ce qu'on pense, c'est que si on est capable de prioriser beaucoup mieux l'information dans nos sociétés, on sera beaucoup plus efficace pour aussi combattre des choses comme les problèmes environnementaux.
Remontons à la source et regardons les vraies questions, les vrais problèmes. François Mancillon, vous voulez ajouter quelque chose ?
Là, et l'autre élément, c'est la mesure et l'information. Si on veut contrôler les émissions de gaz à effet de serre, la première chose, c'est d'être capable de les mesurer et que ces mesures deviennent disponibles pour tous.
D'accord. Donc la transparence et l'ouverture.
Si on sait ce que font les entreprises, si on sait d'où ça vient, etc., ça aura un effet. Tant qu'on n'a pas ça, c'est le minimum. Et tout ça, ça peut venir toujours de l'idée de l'ouverture des données et de la transparence et de la visibilité pour tout le monde.
Donc on peut dire qu'on peut militer pour les communs numériques. Enfin, je pense que là, on ne peut pas se tromper si on va dans ce sens-là. J'ai envie de vous laisser la conclusion peut-être.
J'ai envie de dire que, comme l'a dit Serge, les communs numériques ne sont pas forcément éthiques par conception, ne sont pas forcément bien gouvernés.
Mais c'est à nous
par
de
conception.
Les rendre.
C'est ça. Et je pense qu'il faut concevoir des communs numériques et bien les gouverner comme il faut, mettre en place toute une structure. Et si je peux faire la conclusion, je vais faire le lien avec la Révolution française de 1789, qui était vraiment le début d'un mouvement, d'un soulèvement. Mais ce n'est pas du tout la fin, parce que pour avoir une démocratie durable, satisfaisante, il a vraiment fallu attendre 1870, la Troisième République. Et en gros, pendant presque un siècle, il y a eu des alternances, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées. Mais l'une des raisons pour lesquelles il a fallu tout ce temps, c'est qu'il fallait développer l'éducation populaire, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses qui me semblent importantes d'importer dans le monde numérique aussi.
C'est notre chantier, là. Il ne faut vraiment pas qu'on s'en passe. Un mot de fin, Serge, mais vraiment un mot.
Pour rebondir un peu là-dessus, le numérique, ça a quelque chose de fantastique. Ça permet d'échanger de l'information de façon très facile, très pratique, de façon collective, de travailler à beaucoup, de collaborer. Et donc, la question maintenant, c'est de s'emparer de cet outil, le numérique, pour en faire un vrai outil de démocratie, un vrai outil de partage, et qui nous permettra d'aller faire nos rêves, d'une certaine façon.
Et c'est possible. Merci vraiment à tous les trois d'avoir ouvert notre champ des possibles. On en a bien besoin aujourd'hui. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Donc, Vive les communs numériques, signé Serge Habitboul et François Bancillon, aux éditions Odile Jacob. Et puis, La dictature des algorithmes, les Nguyen Prang, avec Jean-Loup Fourquet, aux éditions Talendier. Je dis qu'on peut vous retrouver, votre blog binaire, sur le site du journal Le Monde, Serge Habitboul. Et puis, bien sûr, votre chaîne YouTube Science for All. Thibaut Baduel à la réalisation me le rappelait à l'instant. On s'en sert beaucoup, de vos petites vidéos. Donc n'hésitez pas, chers amis auditrices et auditeurs, à y aller. Merci à tous les trois. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion à 23h temps universel et bien sûr vous abonner à notre podcast. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, lundi et mardi, pour parler d'arbres, de plantes, mais aussi d'astronomie, avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, numériques ou pas, et en commun. Bientôt les infos.